Marie-Josée Laure, vous jouez Serena dans l'opéra Porgy and Bess, monté par George Gershwin, un opéra qui a été créé en 1935. Cet opéra, en fait, ses lettres de noblesse, il les a acquises il y a finalement très peu de temps, il y a quoi, à peine une trentaine d'années.
Je pense que pendant longtemps, Porgy and Bess a été comme dans une espèce de discussion à savoir si c'était un opéra ou si c'était une comédie musicale. Pendant longtemps, on a hésité à le mettre dans le répertoire opératique. Donc, il a été fait beaucoup en comédie musicale sur Broadway, mais l'amener en production, ça, il a fallu que les puristes discutent entre eux pour accepter que cette œuvre-là soit dans le répertoire opératique. Mais je vous confirme que c'est un opéra parce que, en tant que chanteur lyrique, quand on fait cette œuvre-là, on sait que c'est un opéra.
Alors, la distribution, elle est présentée par des gens de la communauté noire. C'est ce que voulait Gershwin également.
Oui, oui.
Mais Gershwin, lui, c'était un blanc.
Oui.
Est-ce que si ça avait été monté par un noir, en fait, si Gershwin avait été noir, est-ce que l'opéra aurait été différent?
C'est tellement une bonne question. Wow! Je pourrais pas m'hasarder à répondre à cette question-là parce que... Mais je sais pas si un noir aurait écrit un opéra parce que il y a pas beaucoup de noirs qui écrivent l'opéra. Bon, pendant longtemps et puis encore maintenant, et plus associé, c'est un art caucasien. Puis je me dis, s'il y avait un noir qui aurait voulu écrire Porgy and Bess, il l'aurait fait. Mais je pense que ça rend la chose d'autant plus intéressante que Gershwin, qui était compositeur avec son frère, qui était un très grand pianiste, il baignait dans cet environnement-là. Donc, beaucoup de son œuvre, que ce soit An American in Paris, sont inspirées du jazz, de toute la musique noire. Donc, je pense que lui-même, pour pouvoir écrire cette œuvre-là, puis lui mettre les éléments qui sont très identitaires au peuple afro-américain, je pense que lui-même, il avait quand même une très bonne connaissance. Il était entouré de ces gens-là, de par son métier, ce qui lui a permis de rendre musicalement quand même très bien le caractère afro-américain.
Oui. Alors, je regardais la distribution. Les sopranos sont canadiennes, mais les ténors, les barytons sont américains. Pourquoi?
Quand on parle des voix lyriques masculines, c'est toujours plus difficile à trouver. Et quand on parle de voix lyrique masculine noire,
encore plus difficile à trouver.
Donc, et qui ont l'œuvre de Porgy and Bess dans leur répertoire. Donc, je pense que c'est juste une question de disponibilité de chanteurs et de qualité aussi.
Oui. Est-ce qu'il en existe beaucoup, d'ailleurs, des chanteurs noirs, des ténors, des barytons au Canada? Qui sont les plus importants, les plus connus?
Franchement, là, c'est une question que je ne peux même pas répondre.
Ah oui, c'est ça. Alors que les sopranos, il y en a, dont vous et dont Misha Brugger-Gossmann, deux grandes sopranos. Dans votre cas, est-ce que c'est la première fois que vous chantez dans Porgy and Bess?
Oui, c'est la première fois.
Mais vous avez déjà chanté les succès comme Summertime?
Ah oui, en concert, puis même sur mon premier album, j'ai enregistré Summertime, puis My Man's Gone Now avec l'Orchestre Métropolitain. Mais c'est la première fois vraiment que je faisais la production.
Et alors?
Ben, c'est merveilleux. c'est une sensation assez agréable. En fait, aussi, l'Opéra de Montréal a fait concorder ça avec le mois de l'histoire des Noirs. En plus, c'est une grande première à Montréal. Moi, je pense que ça va rester quand même un grand événement dans la programmation de l'Opéra de Montréal. Et en faire partie, c'est merveilleux aussi. de vivre cette expérience-là, d'être dans une distribution totalement noire, c'est quand même spécial parce que je vous avouerai que dans la plupart des productions que j'ai faites, pour ne pas dire dans toutes les productions que j'ai faites, j'ai toujours été exclusivement la seule noire. Et même dans tout le répertoire opératique, des rôles, des grands rôles écrits spécialement pour les Noirs, il y en a pas vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Et l'atmosphère est quelque peu différente parce qu'il y a une plus grande exubérance.
Mm-hmm.
Mais c'est très agréable.
Notre première, en fait, c'est qu'il y a le Montréal Jubilation Choir qui fait partie de la production. Ça aussi, c'est formidable.
C'est merveilleux. Moi, je pense que sur toute la ligne, Michel Bolac et tous ses collègues ont quand même été de l'avant avec des idées un petit peu avant-gardistes, en sachant que le Montreal Jubilation Gospel Choir, comme le dit son nom, est plus spécialisé dans le gospel et ne sont pas habitués au monde de l'art lyrique. La plupart n'ont jamais fait de production. Et on sait que sur la majorité des opéras, c'est le cœur de l'Opéra de Montréal qui prendrait place. Mais pour cette production-là, étant donné qu'il fallait quand même une majorité noire, c'était quand même assez astucieux d'aller chercher le Montréal Jubilation Gospel Choir, qui d'ailleurs fait un excellent travail et est totalement à leur place.
Parce que sur scène, il y a combien de blancs, de personnages blancs en tout?
Deux ou trois.
Et dans la salle?
Et ce sont des rôles parlés, c'est des comédiens. Et dans la salle, c'est 2700.
Sur combien?
Sur 2800.
Ah là là! La communauté noire montréalaise n'a pas répondu en grand nombre pour venir vous écouter?
Non, je ne dirais pas qu'elle ne répond pas en grand nombre. Je dirais juste que c'est sûr que dans la salle, il y en a même plus. C'est pour ça que je dis 2700 sur 2800. Déjà, s'il y a 100 noirs, c'est plus que d'habitude.
Oui, oui.
Mais je pense que c'est peut-être juste parce que l'art lyrique n'est pas un art auquel la communauté s'intéresse particulièrement.
Oui, ça ne fait pas partie de ses traditions.
C'est pas le premier art auquel il est initié.
Pour Guy Hennebest, se présenter à l'Opéra de Montréal, Marie-Josée Laure, merci de nous en avoir parlé.
Ça m'a fait plaisir.